Vous l'avez entendu, nous entrons maintenant déjà dans un contexte un peu de passion. On nous annonce la passion. On nous annonce toutes ces calamités, ces épreuves qui vont peu à peu cerner Jésus et le rendre apparemment prisonnier. Il est souverainement libre, mais il se livre volontairement. Et l'évangile d'aujourd'hui est très dur. En fait, il s'adresse aux autorités juives de l'époque qui avaient un peu la main mise sur l'aspect religieux, sur la dimension religieuse du temple et du peuple et qui en fait ne reconnaissaient absolument pas les signes des temps mais surtout étaient probablement mus par des sentiments de cupidité, de domination de toutes sortes. Et l'évangile se termine très durement. Il est question d'un royaume qu'on enlève aux vignerons qui en étaient responsables et qui se sont révélés être des mauvais vignerons. Ils vont même périr misérablement. Et le royaume sera donné à une nation qui lui fera produire des fruits. Et là, c'est déjà un petit peu le mystère de l'Église qu'on peut lire en filigrane. Toutes les nations païennes qui viendront et qui adhéreront à la foi. En ce premier vendredi du mois, cependant, nous voulons aussi faire mémoire du cœur de Jésus, rempli de compassion, de miséricorde, dont la toute-puissance peut convertir les cœurs et changer les situations. Et là, peut-être que la première lecture nous aide avec cette figure extrêmement attachante qu'est Joseph. Joseph qui est une sorte de figure prophétique du Messie, du Christ lui-même. Si on lit attentivement le texte, la lecture que vous pourrez peut-être relire, vous verrez beaucoup de détails qui annoncent en fait Jésus. D'abord la jalousie de ses propres frères, parce que Joseph était le préféré de son père Jacob, en quelque sorte un peu comme l'unique. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci et ne pouvaient plus parler qu'avec hostilité contre lui. Et puis dès qu'ils le voient arriver, ils complotent contre lui, ils veulent le faire mourir. C'est ce qui va arriver avec Jésus. Tuons-le. Alors il y en a un des frères qui ne veut pas, qui veut l'épargner, et qui dit « Ne répandez pas son sang, jetez-le dans une citerne, dans cette citerne du désert. » Alors dès que Joseph arrive, il le dépouille de sa tunique. Là, il y a un petit détail. La tunique de grand prix qu'il portait. Et qui annonce cette tunique d'une seule couture que Jésus portait encore jusqu'au crucifixion et qui ensuite a été, on l'a dépouillé aussi, il a été dépouillé de sa tunique, on l'a tiré au sort, cette tunique, qui est une figure d'ailleurs pour la tradition de l'Église, un peu de l'Église, sans déchirure, sans couture. Il le jette dans la citerne. Là, pour les pèlerins de Terre Sainte, cela nous évoque quand même quelque chose, un lieu particulier. La cour du grand prêtre, là où Jésus a été trahi, accusé, condamné, calomnié. Après les mauvais traitements, il a passé, selon la tradition, la nuit dans une espèce de citerne qu'on peut visiter dans la cour du grand prêtre. On ne sait pas si c'est absolument sûr historiquement, mais symboliquement oui, où Jésus a souffert toute la nuit, où il a pu s'approprier le fameux psaume qu'on lit chaque vendredi accompli. Le torrent, ma compagne, c'est la ténèbre. Je suis loin de tous, amis et familiers sont loin de moi. Je suis seul et l'étau se referme sur moi. Voilà pour la citerne. Et puis finalement, quand arrive cette caravane d'Ismaélites, il va être vendu. Pour 20 pièces d'argent, cela nous rappelle bien sûr la trahison de Judas qui va le vendre pour 30 pièces d'argent, qui va vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. Et il va finalement arriver en Égypte, où il va être maltraité, calomnié, et puis finalement, à cause de la pertinence et de la puissance de ses songes, il va être relâché. Et c'est peut-être là qu'en Joseph, on peut voir en ce premier vendredi du mois quelque chose de la miséricorde du cœur de Jésus, car l'histoire, bien sûr, elle ne s'arrête pas là. Bien plus tard, Joseph, qui sera devenu le deuxième personnage du royaume après Pharaon, et qui aura la totale responsabilité de l'économie du pays au sein d'une famine qui va décimer la région tout entière, finalement ses frères vont descendre en Égypte de Canaan, ceux-là même qui l'ont livré et qu'ils croyaient mort en fait. Ils ne vont pas le reconnaître parce qu'il était habillé en dignitaire égyptien, mais lui les reconnaît. Et finalement, quand lui va se faire reconnaître d'eux, alors là, nous entrons dans le mystère même du Christ, rédempteur du Christ, qui dit, alors c'est Joseph qui parle, voilà, il se fait reconnaître d'eux, les frères sont bouleversés, c'est l'étreinte, ils s'embrassent. Et puis Joseph va avoir cette parole qui est admirable, ne soyez pas chagrins, ne soyez pas tristes, certes, vous en avez voulu à ma vie, vous m'avez vendu, ça ce n'est pas bien, vous m'avez trahi. Mais voilà, le mal que vous m'avez fait s'est tourné pour votre bien. Ça c'est vraiment, on entre dans le Nouveau Testament. Ce qui m'est arrivé c'est pour votre bien finalement. Le Seigneur m'a envoyé devant vous pour que je vous sauve de la famine, vous et toute la descendance de mon père. Donc ne soyez pas tristes, le mal que vous avez voulu me faire s'est changé en bien. Et alors là on arrive au comble de l'amour. Comme Jésus qui nous dirait, les blessures que vous m'avez vous-même infligées par vos péchés, par vos trahisons, par vos reniements, ces blessures sont devenues source de guérison et de salut pour vous. Voilà le mystère du cœur de Jésus, admirablement annoncé par cette figure qu'est Joseph dans l'Ancien Testament. Alors nous savons que nous avons pu trahir, peut-être qu'à certains moments nous sommes un peu comme ces mauvais vignerons, remplis de violence, pas vis-à-vis de Jésus lui-même, parce que nous savons très bien, nous qui venons dans cette chapelle, mais en Jésus présent dans nos frères parfois, dans nos ennemis, dans nos adversaires, ou dans le marginal qui nous gêne, qu'on ne veut pas regarder, ou qu'on fuit. Voilà. Et Jésus nous accueille dans son cœur et nous dit, voilà, regardez, il cite un psaume, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, elle est devenue maintenant la pierre d'angle, la pierre du salut. Alors en ce chemin de carême, en ce premier vendredi du mois, nous adorons d'abord cette miséricorde infinie qui tourne tout le mal en bien, à condition que nous ayons l'humilité de le lui remettre. C'est pour ça que nous avons le sacrement de la réconciliation, mais beaucoup d'autres moyens pendant ce carême aussi, par nos renoncements, par nos sacrifices, par nos actes d'ouverture et de charité qui couvrent, nous dit l'Écriture, une multitude de péchés. On peut toujours retomber parfois dans le même péché, il peut y avoir des pulsions, des choses qui nous découragent. Dès qu'on s'ouvre à l'autre, cela couvre une multitude de péchés, dit l'Écriture, et pas seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Donc il y a même une dimension universelle d'intercession. Entrons donc dans ce chemin du carême, comme le dit une antienne, oui, les yeux fixés sur Jésus, en entrant dans le combat de Dieu, mais plus encore, en ce premier vendredi du mois, les yeux fixés sur son cœur, ouvert, d'où jaillissent de façon inépuisable les flots de miséricorde, de salut, de guérison, qui transforme les péchés parfois les plus iniques, les plus innommables, finalement, peuvent devenir source alors de purification telle qu'ils deviennent source de miséricorde, de salut. Amen.